France Inter.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Dans une société comme la nôtre qui va vite, qui pousse à la performance et à l'individualisme, prendre soin des autres peut sembler secondaire. Et pourtant, c'est un geste fondamental, une attention silencieuse, un lien précieux qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Prendre soin, c'est tendre la main, accompagner, parfois porter. C'est être là simplement quand l'autre vacille. Ça peut être un mot, un regard, une présence. C'est aussi un engagement, souvent discret mais profondément humain. Mais alors une question se pose, sommes-nous généreux par nature ou le devenons-nous avec le temps, l'expérience ou encore l'éducation? Est-ce un instinct, une qualité qui nous habite dès notre naissance ou une capacité qui se construit et qui se cultive? Prendre soin des autres, ce n'est pas seulement passer un coup de fil pour prendre des nouvelles, c'est parfois accompagner sur la durée, accueillir la fragilité, soutenir. Mais alors comment le faire sans s'oublier? Que veut dire prendre soin dans nos familles, nos métiers ou nos engagements? On attend vos témoignages au 01 45 24 7000 ou vos messages sur l'appli Radio France. Nous sommes le mercredi 6 août. Grand bien vous fasse, en direct tout l'été pour vous accompagner.
France Inter. Grand bien vous fasse. Yasmine Oublis.
Une bonne occupation, ça me remplit bien la tête et puis j'apporte aux autres tout en ça m'apporte en même temps. Donc ça c'est bien.
C'est pour essayer d'apporter quelque chose aux gens qui sont dans le besoin et dans le désarroi, essayer de leur faire entrevoir un avenir meilleur quand même.
Dans un monde un peu difficile, de pouvoir se consacrer aux autres, je pense que c'est important de donner un peu de son temps, d'autant plus quand on a du temps libre. Voilà.
On vient d'entendre des bénévoles des Restos du Cœur, extrait d'un reportage de France Bleu en 2017. Alors nos invités ce matin ont tous à cœur de transmettre aujourd'hui leur vision du soin et ce qu'il apporte à notre société. Bonjour Cécile Neuville.
Bonjour.
Alors Cécile Neuville, vous êtes avec nous ce matin à distance et pas par manque de volonté. Hein. Vous étiez venue en train pour nous rejoindre et puis il y a eu un souci. Merci en tout cas d'être avec nous à distance. Vous êtes psychologue experte en psychologie positive, autrice de 18 livres dont ma Bible de psychologie positive publiée chez Le Duc. Pour vous, la pensée positive est propice au bonheur et on va en discuter avec vous ce matin. Bonjour Jean-Michel Richard.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général des Restos du Cœur qui chaque année distribue plus de 160 millions de repas aux 9 millions de personnes en précarité en France. Mais les restos, c'est encore bien d'autres initiatives que vous nous détaillerez tout à l'heure. Bonjour Fabienne Brugère.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, professeur des universités et autrice de nombreux ouvrages, dont L'éthique du care. Alors déjà, pourquoi utiliser ce mot anglais pour parler d'une éthique? C'est pas une éthique du soin?
Le soin a davantage, enfin en tout cas en français, prête au soin un sens plutôt médical ou paramédical. Les médecins, les infirmières, et il est souvent lié à la question de la maladie et donc aussi à la possibilité de la guérison. Alors que dans le terme de care, qui est un terme anglais, le réseau de compréhension est beaucoup plus large parce que ce qu'on met en avant avec le care, c'est la possibilité d'une relation aux autres qui est une relation sur le mode du souci des autres, une relation, voire un lien. Un lien, c'est-à-dire qu'il y a précisément quelque chose qui s'établit dans une relation qui peut être une relation de fragilité, mais cette relation, elle n'est pas nécessairement médicale. C'est une relation de souci des autres, de préoccupation face à ce qui nous arrive et face à ce qui arrive aux autres. Alors, on appelle ça souvent, peut-être on pourrait traduire en français plus précisément, on va en parler, par le prendre soin des autres. Et il y a là quelque chose de beaucoup plus large que le soin lui-même.
Alors, c'est tout l'objet de notre émission hein, ce matin, prendre soin des autres. On a parfois une définition qui n'est pas la même. Cécile Neuville, en tant que psychologue, est-ce que vous pouvez nous dire ce que signifie pour vous le fait de prendre soin?
Oui, prendre soin, c'est vraiment mettre une intention déjà positive d'apporter quelque chose de bon, de bien à quelqu'un qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas d'ailleurs, puisqu'on peut prendre soin des autres, de nos proches, tout comme d'inconnus. Et j'irais même jusqu'à même prendre soin de soi. Et tout est relié et tout est en synergie même.
Ça, c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors Jean-Michel Richard, vous qui êtes secrétaire général des Restos du Cœur, je vais vous poser la même question. C'est quoi pour vous prendre soin des autres ?
Eh bien, prendre soin des autres pour les restos, pour moi, c'est les accompagner au quotidien. C'est pouvoir leur apporter ce dont ils ont besoin. Et pas uniquement l'aide matérielle première que tous les Français connaissent, à savoir l'aide alimentaire, mais également par ce prisme, pouvoir les accompagner dans un parcours de reprise de confiance, d'insertion, de développement de leurs compétences, des choses parfois toutes simples qui permettent effectivement de pouvoir les accompagner.
Alors, Fabienne Brugère, est-ce qu'en tant que philosophe, ça prend un autre sens, le soin et le fait de prendre soin ?
Prendre soin des autres, c'est pas seulement penser aux autres. Par exemple, si aujourd'hui c'est la date d'anniversaire d'un ami qui m'est très cher, je vais lui envoyer un message, je vais lui passer un coup de fil, je vais lui faire un cadeau, c'est penser à cette personne. Mm-hmm. Mais d'en prendre soin, il y a beaucoup plus. D'en prendre soin...
Mais penser à quelqu'un, c'est... Quelque part,
alors,
prendre soin.
C'est un début. C'est-à-dire que dans le fait de penser à quelqu'un, il y a une attention. Mais dans le prendre soin, il y a beaucoup plus. Il y a aussi, comme vous le disiez au sujet des Restos du Cœur, il y a aussi l'exercice d'une responsabilité et d'une compétence. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une attention à des besoins, il y a une attention souvent à une vulnérabilité, qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit collective. Et puis après cette attention, il y a le fait d'assumer une responsabilité, d'une certaine manière de décider qu'on va prendre en charge quelque chose des besoins de la personne, quelque chose de la vulnérabilité de la personne. Et puis après, il y a l'exercice proprement, effectivement, d'une compétence. Ce sont des activités qui manifestent une compétence dans l'urgence, un savoir des autres, une expérience des autres, par exemple en difficulté. Et puis enfin, il y a aussi le fait de déployer une capacité d'écoute, c'est-à-dire d'être capable de comprendre ce que l'autre reçoit de ce que je lui apporte, et de lui laisser aussi d'ailleurs la parole, et de le laisser aussi s'exprimer. Donc c'est un ensemble, le prendre soin, c'est un ensemble très complexe, et je crois que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on en a un usage très large dans la société. On peut remarquer combien cette expression a surgi ces dernières années. C'est qu'elle répond à la complexité d'une activité qui est en même temps nécessaire à la vie, à toutes les vies humaines.
Alors Fabienne Brugère, vous avez parlé de compétences, vous avez parlé de capacités. Cécile Neuville, moi ça m'amène à vous poser cette question. Est-ce qu'on est généreux de naissance comme un trait de caractère qui serait inné ?
Alors pas complètement. On va dire que à la fois oui, puisque tout être humain dès sa naissance développe naturellement une forme d'altruisme. Il y a des expériences qui démontrent que il y a des petits enfants, des bébés, il y a même des vidéos qu'on trouve sur internet qui démontrent ces expériences. On les met dans des situations où ils sont en liberté, par terre, dans une pièce sécurisée évidemment, des bébés qui ont à peine l'âge de marcher, voire pas du tout, quoi. Donc on est vraiment sur des très jeunes enfants. Et si on fait rentrer un adulte dans la pièce qui essaye d'attraper un objet qui n'est pas accessible à lui, mais accessible au bébé, le bébé va naturellement, et tous les bébés vont aller chercher l'objet pour le remettre dans la main de l'adulte.
Donc tous les bébés, voilà, à ce moment-là, ont cette sensibilité-là.
Cet élan naturel d'altruisme, voilà, d'aider, de venir en aide sans réfléchir, sans attente, voilà, c'est complètement spontané. En revanche, ce n'est qu'un terreau, et après, très rapidement, tout l'environnement va renforcer ou au contraire limiter cet élan naturel que tous les enfants ont. Et après, du coup, on est très conditionné par toute notre éducation, notre environnement, la société, notre culture, etc., qui fait qu'on l'est plus ou moins dans le reste de notre vie.
Alors, qu'est-ce qu'il va faire ?
Il y a quand même une très, très grande marge de changement.
De changement, mais alors qu'est-ce qu'il va faire justement que les enfants vont développer cette... Alors, déjà, est-ce qu'on parle de traits de caractère, de qualité ou de capacité ?
Ouais. Alors, en fait, un trait de caractère, une personnalité, se construit entre ce qui l'on est à la naissance et ce que l'on vit comme expérience. Et toute notre expérience commence dès la plus jeune enfance en particulier. Et notre personnalité se construit beaucoup autour de tout ce que l'on vit les trois premières années de l'enfance.
D'accord.
Donc là, c'est vraiment quelque chose qui va nous définir. Évidemment, si on est dans tel ou tel environnement, dans telle culture ou dans telle société, dans telle famille, on n'a pas exactement les mêmes conditions, donc pas les mêmes réactions, et ça construit notre personnalité, qui donne une très grande base pour le reste de notre vie. Qui peut encore se changer un peu, mais il y a des grosses bases quand même.
Donc qu'est-ce que les parents peuvent apprendre, peuvent faire ou dire à leurs enfants pour qu'ils développent ce trait de caractère ?
Alors, il y a deux choses essentielles. Il y a ce qu'on peut leur transmettre dans ce qu'on leur dit. Donc, par exemple, je pensais, j'étais dans un parc avec une petite fille qui avait 8 ans, je crois, il me semble. Et elle était libre, elle se promenait et elle allait facilement vers les autres personnes. Donc, elle faisait des sourires, elle jouait avec les autres, elle était très spontanée, elle allait. Et puis, elle aidait s'il y avait besoin d'aide, des enfants, même des adultes. Et moi, elle m'avait offert un bracelet. Et une heure avant. Et en fait, pendant ce moment-là, elle est revenue me voir alors qu'elle m'aime beaucoup. Elle m'a dit oh, donne-moi le bracelet, je vais l'offrir à la petite fille.
Ah oui.
Donc, c'est très. Voilà, il y a une très belle intention quelque part, mais elle ne se rend pas encore compte que moi, elle me prend un cadeau qu'elle m'a offert. Et c'est tout ça qui va faire, c'est comment on va lui en parler, comment on va lui expliquer. Si je lui dis ben non, pas du tout, c'est mon bracelet, etc., tu me l'as donné, je le garde, ça ne fera pas le même impact sur l'enfant que si je lui dis oui, bien sûr, alors ça va me faire mal au cœur parce que je l'aimais bien, ce petit bracelet que tu m'avais offert. Maintenant, j'aime bien l'idée que tu puisses avoir envie d'offrir un cadeau. Donc, si vraiment tu veux, eh bien, je vais bien te le rendre. Mais voilà, selon notre façon de parler, ça va influencer ce qu'elle va devenir plus tard. Mais attention, parce qu'il y a aussi ce que l'on est, nous, et ce que l'on fait, nous. Les enfants apprennent autant de ce qu'on leur dit que de ce qu'ils voient de chez nous. Si à côté, moi, je râle contre tous les gens et je ne donne rien et je ne suis pas très généreuse, l'enfant va quand même voir... qui je suis.
Et oui, il y a une certaine vérité, hein, ouais. Et c'est ce que
exactement.
Les enfants absorbent. Alors, malgré les difficultés économiques que l'on connaît, les Français restent généreux. Le baromètre de la générosité montre une hausse de 1,9% en 2024 par rapport à l'année précédente. D'après votre expérience, Jean-Michel Richard, qu'est-ce qui les motive ?
Alors, ce qui les motive, au-delà de ce qui vient d'être dit pour des phénomènes internes à chaque personne, il y a également des éléments exogènes. Aujourd'hui, vous l'avez évoqué, quand on se trouve face à une société fracturée, avec beaucoup de surconsommation, beaucoup d'égoïsme qui se développe, eh bien, en réaction, nous, on constate une vraie volonté de s'engager, de venir aider, de donner un sens à sa vie. Et ça, on le constate, cette générosité, sur toutes les classes d'âge, que ça soit les jeunes actifs, les étudiants, qui viennent nous donner du temps, qui viennent nous aider, qui viennent participer à nos actions. On le constate également dans la générosité financière des Français. Mm-hmm. Les Restos du Cœur dépendent à plus de 80% de la générosité du public. On a une foultitude de petits bénévoles qui font un effort colossal chaque année pour nous aider. Et donc, on le ressent par ces multiples engagements, mais qui sont exacerbés par l'environnement actuel.
Yasmine Ouglis, grand bien vous fasse, sur France Inter.
Alors, beaucoup de messages ce matin. Notre thème du jour vous inspire. Je vais vous lire celui de Roberto qui revient sur ce qu'on s'est dit précédemment sur la transmission par les parents de la générosité. Il dit « Je pense que prendre soin des autres, c'est spécialement culturel et transmis par nos parents. C'est pas spécialement, je pense qu'il voulait dire. Ça peut toujours s'apprendre. J'ai 27 ans et je prends soin de mes grands-parents de 89 ans et 87 ans depuis 10 ans. Ça me donne beaucoup de joie. » Voilà. Et ça, on va en parler. Maud, elle dit « Je me pose une question. Je suis quelqu'un qui prend soin des autres, j'écoute, j'accueille, mais je souffre du manque de retour des autres. » Fabienne Brugère, je rappelle, vous êtes philosophe, l'acte de générosité peut-il se faire sans attente de retour ?
L'acte de générosité renvoie toujours dans sa définition à effectivement la gratuité, le don, c'est-à-dire un excès par rapport à ce qui est directement utile. A priori, c'est ça un acte généreux. C'est du plus, on pourrait le dire comme ça. C'est un supplément. Mais ce qu'on voit bien à travers les réponses, c'est que, en même temps, ce don, il a une forme de beauté. Et donc, dans cette beauté, bah, il y a l'attente
de quelque chose qui n'est pas, qui est pas directement une utilité, mais il y a l'attente d'un retour, d'une relation, d'un lien, de quelque chose qui passe, de quelque chose qui se constitue. L'une des réponses est de dire, ça m'apporte beaucoup de joie. La question, c'est de savoir pourquoi ça apporte de la joie. Et dans l'autre réponse, c'est de dire,
je n'ai pas assez de retour.
Qu'est-ce que c'est que ne pas avoir assez de retour? C'est estimer que ne se crée pas quelque chose qui serait de l'ordre, on pourrait dire, d'une communauté, d'un être ensemble. C'est une impression de solitude. Et je crois que ça renvoie à une donnée quand même très présente dans notre société, c'est-à-dire des personnes qui se sentent de plus en plus seules, qui sont dans des solitudes subies et non des solitudes choisies. Et forcément, quand on donne, on attend aussi en retour, souvent, de pouvoir être avec les autres.
Cécile Neuville, en tant que psychologue, c'est humain d'attendre un retour lorsqu'on donne?
Alors, c'est humain, mais ce n'est pas inévitable. Voilà. En fait, c'est humain dans le sens où, comme Fabienne le disait tout à l'heure, en fait, prendre soin de quelqu'un, c'est à la fois prendre soin de ce dont elle a besoin et pas de lui imposer ce qu'on pense qui est bon pour elle. Donc ça, c'est une chose. Mais c'est aussi prendre soin de soi au travers de cet acte, donc ne pas se sacrifier pour ça. Donc on y reviendra peut-être après. Mais là, l'essentiel, c'est de se dire que quand je prends soin de l'autre, si je le fais en répondant à mes besoins et si mes autres besoins sont bien nourris, notamment là, on parlait du besoin d'attachement ou le besoin d'affiliation, le lien à l'autre, si je suis déjà très bien nourrie dans ces besoins dans le reste de ma vie, quand je fais un vrai acte de générosité et que je n'ai pas forcément de retour, que j'ai suffisamment confiance en moi, je peux tout à fait être très heureuse, très satisfaite, être comblée dans mon acte de générosité sans forcément avoir de retour. Malheureusement, et c'est bien là le constat qu'on fait très souvent en France notamment, parce qu'effectivement je rejoins aussi sur le fait que c'est beaucoup culturel, c'est pas le cas dans tous les pays du monde. Dans notre culture, on est habitué à ne pas prendre soin suffisamment de nous pour répondre à tous nos besoins et à donner plus aux autres qu'à soi-même. Et donc forcément, on attend un petit peu en retour parce que quelque part, ça vient combler nos besoins, ce retour. Donc c'est juste pas le meilleur moyen pour répondre à nos besoins. Par contre, on peut tout à fait faire des actes de générosité pour le simple plaisir de le faire et pour la satisfaction d'avoir contribué sans avoir besoin d'être vu ou reconnu pour cet acte-là. Mais ça reste encore très rare.
Alors, on peut aussi se dire que faire du bien aux autres, ça nous fait du bien à nous. Il y a certaines études qui ont montré que les actions de générosité peuvent faire du bien à notre corps et à notre esprit. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit précisément, Cécile Neuville ?
Oui, en fait, donc moi je suis experte en psychologie positive, donc c'est la science qui étudie tout ce qui contribue à plus de bonheur individuel, collectif, sociétal, mondial. Et donc, dans les recherches, un des facteurs qui contribue à plus de bonheur, c'est l'altruisme, c'est la générosité. Donc, le simple fait d'être généreux, de contribuer à aider les autres, augmente notre taux de satisfaction à court terme, notre estime de soi et notre bien-être à long terme. Donc, ça a un impact. Et on pourrait même aller plus loin, ça a un impact aussi au niveau biologique, puisque quand je fais un bel acte de générosité, ça me crée des hormones de bien-être, notamment l'ocytocine qui va plutôt être liée à l'attachement, au lien de l'autre, mais aussi la dopamine, l'hormone de la récompense, donc quelque chose qui nous rend fiers de nous. Et donc tout ça contribue aussi à un meilleur système immunitaire, à plus de vitalité, on est vraiment en meilleure énergie, en meilleure forme, et donc on a moins de problèmes de santé, il y a énormément de bénéfices à être généreux.
On peut donc considérer qu'on donne aux autres et on se donne à soi. Ça me rappelle une chanson. C'est le refrain de la chanson des Restos du Cœur avec le collectif Les Enfoirés. Oui, j'avais envie de chanter ce matin. Je parle à ma réalisatrice Maria Pasquet qui me regarde. Oui, j'avais envie de chanter ce refrain. Il est contagieux, c'est comme la générosité qui est contagieuse. Jean-Michel Richard, vous qui êtes secrétaire général des Restos du Cœur, comment vous en êtes arrivé, vous, à donner de votre temps pour cette association ?
Alors, j'en suis arrivé... Je suis arrivé au resto totalement par hasard, après la période de Covid, avec mon épouse, suite à la cessation de notre activité professionnelle, on s'est dit, mais pourquoi pas donner de notre temps, redonner un petit peu de la chance que l'on a eue au cours de notre vie, pour ceux qui en ont tant besoin.
Je rappelle que vous êtes bénévole, ce qui ne tombe pas sous
absolument,
le sens.
Absolument, oui, absolument. Je suis bénévole au Resto du Cœur. Et donc, on s'est engagé dans l'aventure des restos, et très très vite, ça nous a pris, comme, je dirais, les plus de 100 000 bénévoles qui font partie des restos, qui bâtissent ce modèle, qui est effectivement, on y rentre pour prendre soin, pour être utile. Et puis après, on y reste parce qu'il y a toutes ces interférences, tout ce qui vient d'être dit d'un point de vue un peu théorique. Nous, on en a l'illustration chaque jour. Les gens viennent pour recevoir un sourire de la personne qu'ils ont en face, pour une satisfaction personnelle, pour faire partie d'un collectif, pour donner du sens à leur vie, pour être tout simplement en harmonie avec les personnes avec lesquelles elles travaillent, et puis également apporter un peu de satisfaction à ceux qui ont besoin de nous au quotidien.
Alors, je rebondis sur ce que dit Jean-Michel Richard, Fabienne Brugère. En tant que philosophe, est-ce que vous pensez que le bénévolat, en plus d'un véritable souci de l'autre, et on vient de l'entendre, peut être aussi une quête de sens ?
Bien sûr, c'est une quête de sens dans la mesure où comme ça vient d'être dit, il s'agit aussi de faire bénéficier de ce dont on a bénéficié. C'est-à-dire que dans le bénévolat, ce qu'on peut voir à l'œuvre, c'est quelque chose comme des chaînes de soins. J'estime que la société a pris suffisamment soin de moi, donc je vais essayer de prendre soin de celles et de ceux qui peut-être en ont moins bénéficié que moi. Donc il y a quelque chose qui est du registre, je dirais, de la solidarité. D'une solidarité qui a plusieurs sens, un sens socio-économique, un sens intergénérationnel. Et cette solidarité, c'est quand même l'une des bases de nos sociétés modernes. Si on reprend, par exemple, les travaux du grand sociologue Durkheim, lorsqu'il nous dit qu'il y a des solidarités organiques dans les sociétés modernes, il veut dire que nous sommes foncièrement attachés les uns aux autres et que précisément on peut développer des actions comme celle du prendre soin, eh bien qui justement renforcent nos attachements. Parce qu'en même temps, nous sommes radicalement des individus. Nous sommes de plus en plus individualisés. Mais comme nous sommes de plus en plus individualisés, le travail sur l'attachement social est de plus en plus important. Nous avons de plus en plus besoin de nous relier parce que justement nous sommes de plus en plus individualisés. Et je crois que ça, c'est vraiment une des règles des sociétés modernes. Et donc, toute la question du bénévolat, je pense qu'elle va dans le sens de ce que j'appellerais cette solidarité organique qui nous relie les uns aux autres en tant qu'individus, plus ou moins dans le besoin, plus ou moins heureux, qui a bénéficié plus ou moins des conditions socio-économiques qui sont les nôtres.
Là, on parle du bénévolat, prendre soin en tant que bénévole. Quand on parle de soins, moi je pense aussi, au-delà de l'action d'entraide associative, je pense à ce qui nous définit parfois au sein de notre famille. Les mères sont souvent celles qui prennent soin de tous les membres de leur famille avant de prendre soin d'elles-mêmes. Cécile Neuville, en tant que psychologue, quel est le risque de prendre soin des autres en s'oubliant ?
Eh bien, justement, il y a des risques aux deux niveaux aussi, pour soi et pour les autres, parce que la meilleure façon de prendre soin des autres, c'est d'être soi-même dans un meilleur état possible. Évidemment, on est plus en capacité, on parlait de compétences-capacités, mais une des capacités importantes dans le prendre soin, c'est la disponibilité. Et quand je parle de disponibilité, c'est pas que le temps, c'est la disponibilité d'énergie, la disponibilité émotionnelle. Et donc, si je prends soin de moi, si je réponds à mes besoins, si je prends soin et je suis à l'écoute de moi-même régulièrement, je vais pouvoir être plus disponible et donc avoir une meilleure efficacité, si on peut parler de ça, en termes de prendre soin et d'aide et de générosité. En tous les cas, Chose est sûre, la mère qui, effectivement, je confirme, c'est une très grande tendance en France. En cabinet, c'est vraiment ce que je retrouve de plus comme difficulté dans les familles. C'est la posture de la maman qui a tendance à se sacrifier pour prendre soin des autres et qui après finit même par en vouloir aux autres. Donc l'inconvénient aussi, c'est que ça va nuire aux relations parce qu'elle va finir par le reprocher parfois aux autres ou par crier contre les autres parce qu'elle est en état énergétique très faible. Mm-hmm. Donc c'est ni bon pour elle, ni bon pour ses relations, ni bon pour l'autre. Et l'enfant qui la voit comme ça, encore une fois, va la modéliser aussi. Donc ça lui apprend aussi...
Oui, ça façonnera l'adulte qu'il deviendra. Alors vous, exactement, vous prenez la pensée positive, la psychologie positive au quotidien. Est-ce que vous pensez qu'on doit se demander quotidiennement ce qu'on a fait pour soi au cours de sa journée ?
Alors, en fait, déjà juste une toute petite subtilité. Donc la pensée positive, c'est le fait de penser positivement tout le temps, on va dire. La psychologie positive, c'est vraiment une recherche sur même des choses sur les émotions négatives sont étudiées pour pouvoir comprendre comment on peut gérer même des crises ou des émotions difficiles. Donc moi, c'est vraiment cette science-là qui m'intéresse et qui me permet justement de se dire que quand on agit en générosité avec nos enfants, donc là, on va rester sur la maman avec ses enfants, si on prend soin de ses enfants et que derrière l'enfant, on le voit heureux, épanoui, c'est bien. Par contre, quand on prend soin de ses enfants et qu'on les voit qui râlent, qui réagissent, etc., ça veut dire qu'on n'est peut-être pas dans la bonne posture de maman et qu'on n'utilise peut-être pas le bon moyen pour prendre soin de son enfant. Mm-hmm. Et ça aussi, je voudrais vraiment insister là-dessus parce que des fois, on pense avoir la bonne solution pour prendre soin de l'enfant et c'est pas forcément lui dire toujours du positif, valoriser que le positif et presque nier le négatif, c'est vraiment être à l'écoute de ses émotions et de ses besoins.
Et encore une fois, ils reproduisent ce qu'ils nous voient faire.
Exactement.
Donc, quand on dit montrer l'exemple, ça passe par ce qu'on fait, bien évidemment.
Grand bien vous fasse. Yasmine Oulis. Sur France Inter.
On est de retour avec nos invités pour évoquer le fait de prendre soin des autres et je reçois quand même beaucoup de messages ce matin. Je voudrais vous lire celui de Valérie qui dit « Je crois qu'il est reconnu que le prendre soin est plus souvent une qualité féminine. D'ailleurs, les métiers d'aide-soignante et de sage-femme sont quasiment les seuls au féminin. » Fabienne Brugère, de récentes études des universités de Cambridge et UCLA, mettent en évidence que l'empathie aurait un genre. La société attend-elle plus des femmes qu'elle soit généreuse et empathique?
Alors l'empathie a bien un genre, c'est-à-dire que si on prend les statistiques, effectivement, par exemple en France, 90% des aides-soignantes sont des femmes. Et on pourrait bien sûr continuer avec les assistantes sociales, avec les infirmières. Elle a un genre au sens où nous sommes élevés d'une certaine manière, enfants. Les femmes, et des études l'ont bien montré, les filles sont plutôt dirigées vers l'attachement, vers les relations d'empathie, et donc la préoccupation à l'égard d'autrui. Et puis on apprend souvent, beaucoup plus aux garçons, le détachement, le fait de maîtriser ses émotions, de ne pas trop les montrer. Ce sont des choses qui perdurent, parce que c'est tout simplement quelque chose qui est vraiment très ancré dans notre civilisation. Et puis, il y a un deuxième phénomène, c'est qu'ensuite, en ce qui concerne la figure des mères, les mères sont largement en charge de la responsabilité des enfants et jusqu'à l'épuisement, et ce qu'on appelle la triple journée, c'est-à-dire à la fois le fait d'avoir un travail, d'avoir des charges domestiques et une charge mentale.
Donc heureusement, les pères prennent leur part, et de plus en plus, mais effectivement, j'entends ce que vous dites. Ce que je veux voir, c'est Jean-Michel Richard, au sein des Restos du Cœur, est-ce que vous constatez que l'empathie est genrée? Vous avez plus de bénévoles femmes?
L'empathie n'est pas genrée au Resto du Cœur, mais effectivement, nous avons plus de bénévoles femmes. Aujourd'hui, 59% de nos bénévoles sont des femmes. Et on les retrouve plus spécifiquement dans les activités d'accompagnement, dans les activités culturelles, dans les activités d'accès aux droits, dans les activités de prendre soin des gens. Les hommes sont plus spécifiquement dans les fonctions opérationnelles des Restos du Cœur. Alors, c'est pas manichéen, bien évidemment, il y a des passerelles qui sont importantes chez nous, mais effectivement, il y a un peu plus de femmes au Restos du Cœur au niveau du bénévolat.
Alors évoquer le soin sans entendre ceux qui nous soignent n'aurait eu aucun sens ce matin. On écoute un psychiatre qui s'exprimait sur sa vision du soin dans le documentaire « État limite » de Nicolas Peduzzi pour Arte, sorti en 2023.
Je pense qu'il faut préparer du coup dès la sortie de mois un projet sympa, un truc qui vous donne envie et le faire.
Non mais je vais essayer de passer mon bac.
Ouais, mais sans vous mettre une pression folle, hein.
On ne peut pas quantifier ce que je fais. Et comme on est dans une logique à vouloir quantifier tout, bah ça dévalorise ce que je fais. Mais moi, ce que je fais, ce n'est pas prévisible. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre de construire un lien et d'apaiser une personne, de rencontrer sa famille et de l'apaiser. De lire son dossier, des fois, ça me prend une heure. La seule chose qui me paraît être du soin, tu vois, c'est de se dire on a besoin les uns des autres. On est absolument dépendants les uns des autres. Il ne faut pas le fuir. Si je suis lié à toi, et qu'il t'arrive un truc, je peux pas détourner le regard. Tu vois, ce qu'on fait là, c'est une métaphore de la société, en fait. On se connaît, et donc on s'oblige mutuellement, tu vois. Moi, c'est le truc le plus important, ça.
Alors, c'est le plus important, on s'oblige mutuellement, on vient d'entendre parler du lien. Fabienne Brugère, notre société, pourtant, elle ne valorise pas le soin. Pourquoi, d'après vous ?
Notre société est de plus en plus structurée par une logique du chiffre. Ne serait-ce que au moment très critique de la pandémie, chaque jour, on comptait les morts. Et derrière les morts, bah, il y avait des vies, il y avait des histoires, il y avait un vécu, une subjectivité. Donc notre société, elle est structurée par le chiffre, tout comme elle est structurée par le déficit des finances publiques, c'est encore du chiffre. Mmh. Et donc forcément, et elle est structurée aussi toujours par une injonction à la production. Or, précisément, les métiers du prendre soin, les activités de bénévolat, sont des activités où on ne peut pas tout quantifier, où on ne peut pas tout chiffrer, où il y a toujours quelque chose presque qui d'une certaine manière même ne se dit pas, se sent. C'est comme le fait de toucher quelqu'un, de le voir, de l'entendre. Donc il y aura toujours, comme le dit très justement la voix que nous venons d'entendre, il y aura toujours quelque chose qui n'est pas quantifiable et qui donc en ce sens échappe profondément à la direction que prennent nos sociétés, où précisément de plus en plus tout ce chiffre, tout se pense en logique financière, tout se pense en statistique.
Oui. C'est à peu près tout ce qui est médical et qui est de l'ordre du soin médical, c'est à peu près la seule chose qui échappe au marché aujourd'hui finalement.
Ben oui, parce qu'il y a aussi là-dedans le registre du temps. Comme le dit encore la voix que j'ai vraiment trouvée très juste, il faut du temps pour construire un lien. Et le lien, on ne sait pas comment il va se construire. Il va se construire parfois positivement, parfois négativement. On va avoir des encouragements, des découragements. C'est toute une aventure. Le lien, c'est une aventure. Et l'aventure, ça ne peut pas exclusivement se chiffrer.
On salue ce psychiatre de l'hôpital Beaujon que nous venons d'entendre dans ce documentaire d'Arte. Alors, on a tous besoin d'être soutenus, d'être écoutés, d'être portés au moins une fois dans sa vie. On va écouter ce matin un auditeur qui souhaitait témoigner. Bonjour.
Bonjour.
Alors, comment vous appelez-vous ?
Je m'appelle Eric.
Eric, vous êtes bénévole, me semble-t-il ?
Non. Je vais faire mon propos très court, s'il vous plaît. Bonjour à vos invités et bonjour aux auditeurs, auditrices. J'ai été malade en 95 pour un VIH SIDA et j'ai été suivi à l'hôpital Foch de Suresnes. Et là, lorsque j'ai commencé à fréquenter ces lieux, il y avait une permanence qui était assurée par AIDS,
l'association AIDS.
Oui, et nous bouffions du café, on mangeait des croissants, des gâteaux, et c'était. Alors j'étais un peu dupe au départ, mais ensuite j'ai compris tout l'intérêt en fait que ces gens soient là. Et plusieurs années après, ayant un peu maîtrisé ma maladie dans tous les sens du terme, physiquement et puis psychologiquement, j'ai fait à mon tour du bénévolat chez AIDS au Havre.
Et vous êtes toujours bénévole ?
Non, j'ai arrêté.
Qu'est-ce que vous a apporté cette expérience ?
Ah, bah écoutez, d'avoir été accompagné, d'avoir été soutenu dans des moments extrêmement difficile. En 95, pour moi, l'arrivée de cette maladie, ça a été un tsunami. On m'a beaucoup encouragé, on m'a beaucoup écouté. Et puis, c'était pas prendre une revanche, mais j'avais à mon tour envie de donner ce que j'avais reçu.
Et oui, on a l'impression que c'est un cercle vertueux. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Jean-Michel Richard, en tant que secrétaire général des Restos du Cœur. Est-ce que ça arrive souvent que des bénéficiaires deviennent bénévoles par la suite ?
Eh bien, je vous remercie pour cette question parce que justement, c'est un point que je voulais souligner.
Ça tombe bien.
Ça tombe bien, effectivement. Aujourd'hui, 15% des personnes que nous accueillons quotidiennement deviennent bénévoles au Resto du Cœur. Donc on sent une vraie volonté également de servir, de rendre un petit peu. Et je rebondirai sur ce qui a été dit précédemment, sur cette notion de temps. Moi j'y rajouterai également, il nous faut être humble par rapport aux résultats. Il faut donner du temps. Dans nos plus de 2000 centres d'activité, nous avons ce que l'on appelle des coins cafés, où nos bénévoles peuvent s'asseoir avec les personnes accueillies, les écouter, les entendre, voir quels sont les besoins auxquels on peut répondre. Et ça, c'est très, très important. Je vais vous citer une anecdote en matière de générosité très rapidement. Il y a quelques mois, en faisant une maraude dans les rues de Paris, je rencontre un vieux monsieur qui était à la rue et qui nous demande si on pouvait lui donner un rasoir. On lui donne ce rasoir et en même temps, bien évidemment, on lui propose de la mousse à raser.
Oui.
Et il nous dit « Non, 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 surtout pas. J'en ai encore. Gardez-la pour les copains. » Ça nous a semblé une générosité
évidemment
absolument folle.
Malgré sa situation, lui pense aux autres. Alors, ce qui m'amène à me demander, je pense que vous avez entendu parler des propositions qu'avait fait Gabriel Attal sur les cours d'empathie qui seraient dispensés à l'école.
Dans cette classe de CP, ces petits élèves danois ont un rituel qui peut sembler étrange. Faire des dessins sur le dos du voisin. Ces petits gestes doivent mimer l'histoire racontée par deux maîtresses.
Le nounours avait très envie de venir au Danemark et a vite mis ses affaires dans la valise.
Cet exercice fait partie de ce que les Danois appellent le cours d'empathie. À la fin, chaque élève remercie son voisin.
Merci de m'avoir prêté ton dos.
But de l'exercice, apprendre à avoir des contacts chaleureux. Autre outil pour ce cours d'empathie, cet ours en peluche que cette petite fille vient spontanément apporter à une camarade.
Si quelqu'un se met à pleurer, tu lui tends le nounours. Et s'il s'est fait mal, tu peux aussi lui faire un câlin.
Alors, on a entendu cet extrait du JT de France 2 qui a été diffusé en 2023. Cécile Neuville, est-ce que vous pensez que des cours d'empathie aideraient nos enfants, dispensés à l'école bien évidemment, aideraient nos enfants à devenir plus empathiques ?
Bien sûr. Si j'avais une baguette magique, il y en aurait dans toutes les écoles.
Et qu'est-ce qu'on enseignerait alors ?
En fait, justement, de façon plus globale, on enseignerait plutôt l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire toutes ces fameuses capacités à bien gérer nos propres émotions, mais aussi à tenir compte des émotions des autres et à réagir dans une meilleure dynamique émotionnelle possible dans nos relations, dont cette capacité précise de l'empathie. Et l'empathie, c'est cette force que l'on peut avoir d'identifier, de comprendre peut-être, mais attention de ne pas subir l'émotion de l'autre. Il y a une limite à l'empathie, ça j'aime bien le préciser parce que souvent les gens pensent si elle est en colère, je vais être en colère. Ça, c'est pas de l'empathie. On est plutôt comme une éponge émotionnelle et c'est pas de l'empathie.
Sans empathie, pas de générosité.
Sans empathie, est-ce qu'on peut être généreux ? Oui, je pense qu'on peut quand même l'être, mais en fait, je pense que personne n'a aucune empathie. Je pense qu'on en a tous un petit peu.
C'est rassurant, quelque part.
Malgré tout. Voilà, c'est rassurant. On ne peut pas... Ce que je disais, par exemple, il y a des grands moments comme le confinement ou autre. Malgré tout, la solidarité, même dans la difficulté générale, il y a eu beaucoup de solidarité entre tout le monde. Ça a réveillé certains élans. Quand il y a un accident, les gens, certains se mobilisent.
France Inter. Grand bien vous fasse, Yasmine Oublis.
La générosité est puissante parce qu'elle est accessible, elle est contagieuse même, on l'a vu ensemble. Elle transforme autant celui qui donne que celui qui reçoit et qui sait. Elle est peut-être notre seule planche de salut dans ce monde qui vacille. Encore faut-il l'intégrer à notre quotidien. Et on a reçu un message en ce sens d'un de nos auditeurs. Patrick dit « Prendre soin des autres, ce n'est pas seulement être dans une institution type Resto du Cœur. Pour moi, c'est surtout dans le quotidien qu'il faut prendre soin des autres, prendre le temps de dire bonjour à des inconnus, à des sans-abri, de discuter avec des jeunes au hasard de nos balades, des plus anciens isolés, d'accompagner une personne pour traverser la rue. Enfin bref, c'est d'être vigilant à ceux qui nous entourent. » On est assez d'accord avec vous, Patrick, et je vois Jean-Michel Richard qui confirme. Jean-Michel Richard, les restos, ce sont plus de 160 millions de repas distribués, mais pas uniquement, vous avez bien d'autres missions. Comment est-ce qu'on peut vous aider ?
Alors aujourd'hui, on peut nous aider de différentes façons. Je très rapidement, bien évidemment, tous les dons financiers seront les bienvenus.
Parce même les plus petits.
Même les plus modestes, même les plus petits, effectivement, ils sont les bienvenus. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on voit que la précarité continue de s'accroître. Le dernier rapport de l'INSEE l'a prouvé encore il y a quelques semaines. Et donc, vos dons financiers seront les bienvenus. Et au-delà de ça, venez vous engager au Resto du Cœur, venez bénévoler, apportez-nous quelques heures, apportez-nous une journée ou deux.
Quand vous dites quelques heures, voilà, ça représente quoi ?
Quelques heures. Aujourd'hui, les modes de bénévolat évoluent. Donc aujourd'hui, un étudiant, un jeune actif, il peut nous donner quelques heures, un samedi matin, un soir. Et donc tout ça, c'est le bienvenu, parce que ça nous permet de développer nos activités de distribution et d'accompagnement. Et donc, amenez-nous vos compétences, amenez-nous votre envie, qui nous permette, on va dire, de faire perdurer, malheureusement, cette petite idée qui est née il y a 40 ans.
Mais qui nous est très très précieuse.
Absolument.
Cécile Neuville, on est en période de vacances scolaires, hein, c'est l'été, on est au mois d'août. Oui. Est-ce que le bénévolat peut être une activité intéressante pour les familles pendant les vacances ?
Ah bien sûr, à toute période, dès qu'on a un petit peu de temps, ça peut être une façon d'occuper son temps et même de proposer à nos enfants d'occuper leur temps aussi en famille. Après, il faut trouver évidemment des institutions ou des associations qui accueillent selon les âges aussi et les possibilités. Mais surtout, il ne faut pas forcer quelqu'un non plus. Enfin, attention de ne pas forcer nos enfants. Il faut quand même que ça soit enthousiasmant et volontaire parce que l'altruisme a quand même cette particularité d'être bonne et juste si elle est vraiment sincère et volontaire.
Après, voilà, peut-être qu'il faut choisir son moment. Évidemment qu'entre ça et un match de foot, bon, ils choisiront peut-être le match de foot là maintenant, mais on peut introduire cette idée en tant que parent.
Les initier, voilà, hein, c'est ça.
Et qu'est-ce que ça peut créer comme dynamique familiale ?
Ça renforce les liens, évidemment, puisque quand on vit quelque chose de positif ensemble, ça renforce le lien avec les... Il n'y a pas que les discussions qui peuvent améliorer des situations. Parfois même, sans parler, le fait de vivre quelque chose qui contribue à autre chose de plus grand renforce des liens et permet d'apaiser des conflits au sein d'une famille, par exemple. Ça a été démontré. Hein.
Fabienne Brugère, je pense que vous serez d'accord avec ça.
Oui, parce que la générosité en famille, c'est une vision ouverte de la famille. C'est une vision qui, justement, construit un rapport aux autres. Et je pense qu'à une époque qui est la nôtre, où il y a de plus en plus de familles recomposées, où il s'agit davantage de faire famille, eh bien, cette notion d'ouverture, et donc cette possibilité de la générosité, elle peut être totalement structurante, parce qu'elle permet aux uns et aux autres de pouvoir essayer de vivre ensemble, parce que c'est pas simple non plus, la recomposition des familles.
Bien sûr, et c'est un défi au quotidien. Jean-Michel Richard, vous avez des bénévoles qui viennent en famille ?
Absolument, nous avons des bénévoles qui viennent en famille, j'en suis la preuve vivante, puisque mon épouse est également bénévole au resto. Souvent, lors des collectes nationales, nous avons des familles entières qui viennent nous donner un coup de main, les parents, les enfants, les grands-parents. Donc bien évidemment, ça peut être une aventure familiale.
Je pense qu'il y a plein d'associations qui offrent la possibilité aux enfants de devenir bénévoles. Je sais qu'il y a le Secours Populaire, il y a les Pères Noël Verts du Secours Populaire, mais il y a aussi plein d'autres initiatives. Alors, je voulais vous remercier tous les trois. Alors, Cécile Neuville, vous êtes toujours à distance. Vous n'avez pas pu nous rejoindre en train pour arriver jusqu'à Paris. Merci d'avoir pris le temps. Là, vous allez retourner à Montpellier, je crois, dans l'autre sens. Vous allez faire 10 heures de voyage. Plus même. Combien d'heures pour nous parler ce matin ?
Ah ben, je suis partie hier soir au départ, donc presque 24 heures hein, en tout, pour 7 heures avec vous, et j'en suis ravie.
Oui, là, on peut parler de générosité. Fabienne Brugère était avec nous aussi ce matin. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'éthique du care, qui est disponible dans la collection Que sais-je. Vous avez aussi votre dernier ouvrage qui s'appelle Désaimer. Ça, c'est encore une autre notion. On peut donc
le lien entre le prendre soin et l'amour. Et le fait de ne plus prendre soin, de ne plus aimer, bon là, ça serait un autre sujet d'émission.
Bien sûr. Jean-Michel Richard, vous l'avez dit, les Restos du Cœur ont toujours besoin de nous. Où est-ce qu'on peut trouver toutes les modalités pour vous rejoindre ?
Sur le site des Restos, tout simplement, vous trouverez toutes les modalités pour nous rejoindre avec nos multiples offres de bénévolat auprès de l'association.
Ça prend quelle forme ? C'est des petites annonces ?
C'est des petites annonces, effectivement, avec toutes les missions que l'on peut développer auprès de nos 111 associations départementales, au niveau du siège national à Paris, enfin, de multiples endroits, avec une foultitude de métiers, de compétences qui vous attendent et qui pourront nous rendre beaucoup, beaucoup service.
De quoi avez-vous le plus besoin aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on a besoin de personnes qui veulent s'engager sur des postes à responsabilité. Ça, c'est une vraie problématique.
De manière bénévole. Hein.
De manière absolument bénévole. Je rappelle que les Restos du Cœur, ce sont plus de 100 000 bénévoles pour environ 600 salariés, dont 300 travailleurs sociaux. Donc, c'est vraiment un modèle basé sur le bénévolat.
Alors, je vous remercie infiniment, tous les trois, hein, d'avoir été avec nous ce matin pour redonner ces lettres de noblesse à la générosité.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.